Cité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, merci de votre confiance. Nous sommes vendredi, c'est donc la Libre Antenne. Vous allez pouvoir commenter l'actualité de votre choix. Vous êtes nombreux à nous appeler de la République démocratique du Congo pour nous interpeller sur l'entrée en vigueur de l'état de siège dans deux provinces de l'est du pays. Dans ces deux provinces, le pouvoir a été transféré aux militaires, ce qui suscite une polémique au sein de certaines organisations de défense des droits de l'homme. On en parlera évidemment ensemble. La transition au Tchad, voilà un sujet qui suscite toujours autant de réactions, d'autant que demain, de nouvelles manifestations sont prévues pour réclamer encore la fin du Conseil militaire. Nous reparlerons des coupures d'électricité. C'était notre débat d'hier. Vous avez été très très nombreux à nous appeler pour témoigner. Il faut dire que le phénomène s'est aggravé ces dernières semaines dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Des réactions également sur l'organisation du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, l'interdiction des prières nocturnes en Guinée, durant les 10 derniers jours du Ramadan, l'élimination du PSG en Ligue des Champions. Voilà un aperçu des réactions qui nous arrivent au standard et sur nos réseaux sociaux. La Libre Antenne, 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction. On va commencer avec Salomon, qui nous appelle de Maroua, au Cameroun. Bonjour Salomon.
Bonjour Yohan et bonjour à la grande équipe qui vous accompagne.
Merci de vos encouragements. Vous avez des questions sur le système de parrainage électoral au Sénégal?
Justement, Johan, la Cour de justice de la CEDEAO, dans un arrêt du 26 avril, a ordonné à l'État du Sénégal de supprimer le système de parrainage. Mmh. À ce sujet, j'ai deux petites questions.
Oui.
De quel pouvoir dispose la Cour pour faire respecter sa décision? Et que risque-t-il le Sénégal en cas de non-respect?
Oui, une décision rendue la semaine dernière par la Cour de justice de la CEDEAO, elle donne 6 mois au Sénégal pour supprimer le système de parrainage électoral tel qu'il existe actuellement, un système qui impose aux candidats de recueillir un parrainage d'1% du corps électoral. Du coup, lors de la dernière élection présidentielle en 2019, seules 5 candidatures avaient été validées et c'est un système qui divise profondément la classe politique sénégalaise. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, correspondante permanente de RFI à Dakar. La Cour de justice de la CEDEAO a donc donné raison au parti d'opposition Union Sociale Libérale qui avait saisi donc la juridiction sous-régionale. Toute la question évidemment, Charlotte, est de savoir si cette décision sera effectivement appliquée.
Voilà, parce que en théorie, les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO, eh bien, elles s'imposent à tous les États membres. Hein. Elles sont en principe contraignantes. C'est le protocole à l'origine de sa création qui le dit. Donc, quand une décision est prise, eh bien, elle doit, selon les textes, être appliquée par l'État concerné. Mais concrètement, en pratique, eh bien, la Cour n'a pas le pouvoir, n'a pas les moyens de contraindre un État à appliquer un arrêt. Il y a des limites de compétences. Si vous voulez. En fait, c'est le Conseil des ministres de la CEDEAO qui doit s'assurer de la bonne exécution des décisions. Alors, chaque année, la Cour fait un rapport à ce Conseil des ministres pour dire quelles décisions ont été appliquées ou non. Ce que la Cour peut faire, finalement, eh bien, c'est d'alerter régulièrement le Conseil des ministres en cas de non-respect d'une décision.
Oui, pour ce cas précis concernant le système de parrainage au Sénégal, dans le camp de la majorité, des voix ont immédiatement dénoncé l'arrêt.
Ah oui, notamment le professeur Ismaïla Madiorfal, ancien ministre de la Justice du Sénégal. Aujourd'hui, il est ministre d'État auprès du président, donc on peut considérer que c'est une voix autorisée. Hein. Dans une longue tribune publiée dans le quotidien national Le Soleil, eh bien, il démonte les arguments juridiques de la Cour. Il propose même une réforme de cette Cour de justice sous-régionale. Cela indique que l'arrêt de la Cour ne sera sans doute pas exécuté par Dakar. On peut rappeler que ce n'est pas la première fois que la Cour de justice de la CEDEAO désavoue le Sénégal. En 2018, par exemple, elle avait tranché en faveur de Khalifa Sall, l'opposant condamné pour escroquerie de deniers publics. La Cour avait jugé notamment que son procès n'avait pas été équitable.
Oui, alors concrètement, que risque le Sénégal en cas de non-respect?
Eh bien, concrètement, en fait, pas grand-chose. Hein. Le chercheur Ibrahim Hakan d'Ossiwa rappelle qu'on ne manque pas d'exemples de décisions qui n'ont pas été respectées par les États membres, qui ont pourtant signé les textes, hein, et cela sans qu'il y ait de conséquences. Au pire du pire des cas, un État pourrait être sanctionné par le Conseil des ministres, mais en fait, ça n'a jamais eu lieu. Ibrahim Hakan souligne que cela arrive également. Ce n'est pas que la Cour de justice de la CEDEAO. Hein, pour d'autres juridictions internationales, par exemple, des décisions de la Cour internationale de justice, donc l'organe judiciaire de l'ONU, qui ne sont pas appliqués par les États. Même chose pour certaines décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Et finalement, à chaque fois, les États mettent en avant leur souveraineté, hein, leur législation nationale. Donc finalement, en clair, tout dépend de la volonté politique ou non d'un État de suivre un arrêt. Tout de même, hein, le chercheur Ibrahim Hakan souligne que même si les décisions ne sont pas appliquées là tout de suite par un État, qu'elles sont rejetées dans les discours publics, politiques, eh bien elles peuvent tout de même être prises en compte après dans la pratique pour d'autres affaires. Exemple, hein, si vous voulez bien, concernant Raleigh Fassal, on y revient. La Cour de justice de la CEDEAO avait jugé à l'époque sa détention arbitraire avant la levée de son immunité parlementaire. Et là, on a vu dans le cas récent d'Ousmane Sonko, vous savez, l'opposant accusé de viol présumé, eh bien la procédure de levée d'immunité parlementaire a été menée à son terme avant sa convocation par le juge. Voilà, quoi qu'il en soit, en tout cas pour le chercheur, l'essentiel c'est vraiment de sensibiliser les États pour qu'ils respectent leurs engagements.
Voilà un sujet qui mériterait d'être débattu tout à l'heure dans la Libre Antenne. Vous êtes au Sénégal, appelez-nous, on a envie de vous entendre. 33 9 693 693 70. Salomon, a-t-on répondu à vos questions ?
Satisfait, merci à votre correspondant.
Charlotte Hydrac, à Dakar. Bonne journée à tous les deux.
Bonne journée.
Merci Charlotte. 8h17 au Sénégal. Muriel Paradon, du service international des RFI. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. On a reçu des questions après la confirmation que l'Égypte allait acheter des Rafales, avions de combat français. Albert, bonjour. Bonjour Albert.
Bonjour,
vous êtes à Cotonou, au Bénin ?
Oui, tout à fait, Juan. Bonjour.
Nous vous écoutons avec Muriel Paradon.
Ok. Cette semaine, l'Égypte a confirmé l'achat de 30 avions Rafale à la France.
Oui.
Et par rapport à ce dossier, j'ai deux questions. La première serait de savoir si l'on sait ce que l'Égypte compte en faire.
Oui. 30 avions de combat supplémentaires, ce qui portera sa flotte à 54 Rafales. Muriel Paradon, concrètement, que compte faire l'Égypte de tous ces avions de combat ?
Alors, ce n'est pas tant ce que l'Égypte compte en faire, sur quel terrain elle pourrait intervenir militairement avec ces Rafales, mais plutôt ce que cela apporte à l'Égypte en termes de dissuasion. C'est vraiment le maître mot, dissuasion. Montrer sa puissance dans la région avec ces Rafales, qui sont des avions de combat très performants. Arme de dissuasion contre deux ennemis potentiels, l'Éthiopie, qui est considérée comme une menace par l'Égypte, car elle souhaite, vous le savez, continuer le remplissage du grand barrage de la Renaissance sur le Nil, ce qui mettrait en danger l'approvisionnement en eau de l'Égypte. C'est un contentieux qui est très lourd. Et puis, et surtout, la Turquie, qui est considérée comme une menace également en Méditerranée orientale, avec ses projets gaziers. Donc l'Égypte montre sa puissance avec ses Rafales en disant « Attention, on peut vous atteindre, le cas échéant, même si ce n'est pas le but, c'est ce qu'on appelle la dissuasion. »
La dissuasion. Albert, vous disiez avoir deux questions ?
Oui, la deuxième, c'est que le président Macron avait condamné les atteintes aux droits humains en Égypte lors d'une visite officielle dans le pays en 2019.
Oui.
Et je voudrais savoir si les entreprises françaises ont le droit de vendre des armes à un pays qui ne respecte pas les droits humains.
Ouais. Muriel Paradon, visiblement, quand il s'agit de vendre du matériel militaire à l'Égypte, on a comme l'impression que les questions des droits de l'homme passent au second plan.
Oui, alors d'abord, les entreprises françaises d'armement, elles suivent la ligne des autorités françaises. Hein. Vous savez, Jean-Yves Le Drian, qui était ancien ministre de la Défense, qui est aujourd'hui au Quai d'Orsay, ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui pousse à la vente des Rafales. Il faut être clair là-dessus. Et quand la France, eh bien, décide de vendre des Rafales à l'Égypte, malgré les violations des droits humains dans le pays, dont elle est parfaitement consciente, eh bien, les entreprises d'armement comme Dassault vendent ces armes. Ensuite, en 2019, Emmanuel Macron avait en effet critiqué, lors d'une visite officielle, la situation des droits humains en Égypte, ce qui avait un peu refroidi les relations. Mais depuis, le président français a fait machine arrière en affirmant en décembre 2020, lors d'une visite du président Sissi en France, qu'il ne conditionnerait pas la question des droits humains au partenariat stratégique avec l'Égypte. L'argumentaire de la France est de dire les droits humains, on en parle, mais discrètement, au cas par cas avec les autorités égyptiennes. Et pas question de se passer de l'Égypte, qui est un allié stratégique. D'abord parce que c'est un rempart à l'islamisme, au terrorisme. L'Égypte combat des groupes islamistes dans le Sinaï. Et puis, il y a l'argument économique. La ministre de la Défense française, Florence Parly, ne s'en est pas cachée cette semaine avec cette vente de Rafale. La vente de ces 30 avions de combat va générer 7000 emplois en France sur 3 ans, selon elle. Et ça, c'est aussi important en pleine crise économique due à la pandémie de Covid-19.
Oui, 7000 emplois en France et c'est une vente d'un montant de près de 4 milliards d'euros. C'est
absolument
colossal, évidemment. A-t-on répondu à vos questions, Albert ?
Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Juan. Merci, Madame Charlotte Idrak. Très bonne journée à tous.
Alors, Charlotte Idrak, c'était au Sénégal, mais là, c'était Muriel Paradon. Mais qui s'est fait un plaisir de vous répondre également. Muriel, à bientôt.
Absolument, à bientôt.
Allez, bonne journée. 10h22 à Paris, 33 9 693 693 70. N'oubliez pas la libre antenne. Dans 20 minutes, vous commentez l'actualité de votre choix. On vous attend au standard. Si vous souhaitez nous rejoindre, faites-le également via les réseaux sociaux. Et pour prendre directement la parole, vous nous envoyez sur message privé vos coordonnées, votre numéro de téléphone, pour éviter que le numéro apparaisse sur le mur public. Alexis nous rejoint, bonjour.
Juan, bonjour toute l'équipe de la RFI.
Merci de nous appeler de Lubumbashi. Alors vous, vous avez des questions concernant le divorce de la semaine.
Oui, j'avais certainement des questions, et la première est la suivante. Quelles sont les conditions qui ont entraîné le divorce entre Melinda Gates et son mari ?
Eh oui, on va parler du divorce, de la séparation de Bill Gates et de son épouse Melinda Gates. Ce sont des choses qui arrivent, hein. 27 ans de mariage et puis un beau jour, voilà, on se sépare. Patricia Lecomte, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour Alexis.
Alors vous êtes journaliste au service Echo. On va quand même prendre quelques instants pour alimenter un peu la chronique People. Mais Patricia, si on vous a appelé, c'est qu'il y a des questions économiques qui vont suivre bien évidemment. Sait-on pourquoi Melina et Bill se séparent ?
Eh bien écoutez, je suis désolée, hein, je vais vous faire un aveu, mais je ne suis pas une intime des Gates, donc par conséquent, je n'ai pas vraiment la réponse à cette question, d'autant que le couple n'est pas un abonné hein, des tabloïds, il est même plutôt discret. Alors on va plutôt simplement se contenter des faits, à savoir que c'est par un tweet que le couple milliardaire et philanthrope a décidé d'annoncer qu'il mettait fin à son union, effectivement, après 27 ans de mariage, comme vous l'avez dit. Bill Gates, cofondateur de Microsoft, âgé de 65 ans, et sa femme Melinda, 56 ans, ex-directrice du géant informatique américain, ont lundi dernier, dans un communiqué commun, déclaré « Après beaucoup de réflexions et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage. » En clair, le couple ne dit rien des raisons réelles qui les ont conduits à cette décision. Alors certes, des rumeurs circulaient sur des tensions qui existaient dans leur couple depuis plusieurs années. D'ailleurs, dans son livre intitulé « Prendre son envol », publié en 2019, Melinda Gates évoque des moments incroyablement durs dans leur mariage, je la cite. Il semblerait que Bill Gates avait du mal à se rendre disponible pour sa famille.
Bon, en tout cas, ce n'est pas cela que nous retiendrons de l'histoire de ce couple, mais plutôt son incroyable parcours.
Oui, Bill Gates est le quatrième homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à 124 milliards de dollars, soit 103 milliards d'euros. Co-fondateur de Microsoft, il a quitté le groupe en 2008 pour se consacrer avec son épouse à la création de la fondation qui porte leur nom, la Fondation Gates, qui lutte contre la pauvreté et les maladies dans le monde et œuvre pour l'éducation. D'ailleurs, avec un autre milliardaire, Warren Buffett, le couple a également monté la fondation The Giving Pledge.
Alors justement, vous parliez de la fondation Gates. Alexis ?
Oui.
Vous avez d'autres questions ?
Oui, la deuxième question est la suivante. Par rapport à la fondation des finances de l'OMS et de l'initiative COVAX, va-t-il y avoir des conséquences sur la gestion de la COVID-19 ?
Ah, vous craignez peut-être des répercussions, des conséquences après un tel divorce. Que peut-on répondre, Patricia Lecomte ?
Bah là, évidemment, c'est toujours un peu trop tôt pour se prononcer, mais en tout cas, il ne semble pas que le divorce s'annonce tumultueux. Melinda Gates a d'ailleurs annoncé qu'elle ne demandera pas de pension alimentaire. Ils devraient donc, en bonne entente, se partager leur fortune et continuer à travailler ensemble au sein de leur fondation. Il faut rappeler, Juan, que la fondation Bill et Melinda Gates est la plus importante organisation philanthropique privée au monde. Dotée de 50 milliards de dollars, elle emploie 1 600 salariés et elle est en effet le deuxième contributeur de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et son rôle est actuellement primordial pour aider les pays les plus pauvres durant la pandémie. Leur fondation est également très impliquée dans le programme COVAX, qui gère la distribution des vaccins contre le Covid dans 92 pays nécessiteux. Alors, les deux futurs ex-époux sont coprésidents et leur entente évidemment sera cruciale pour l'avenir de la fondation. En tout cas, dans leur bref communiqué, les Gates se montrent rassurants puisqu'ils ont déclaré « Nous partageons toujours notre foi dans cette mission et nous poursuivrons notre travail commun à la Fondation. »
Voilà, voilà qui est dit. En tout cas, c'est vrai que ce divorce suscite de nombreuses questions quant à l'avenir de cette Fondation. A-t-on répondu à vos questions, Alexis ?
Oui, Juan, merci beaucoup et merci à toute l'équipe de la RFI.
Bonne journée à Lubumbashi, Patricia Lecomte, bonne journée.
Si, Juan, bonne journée à tous.
Journaliste au service éco de RFI. Allez, c'est la dernière question de la semaine. Elle nous est posée par Benjamin. Bonjour Benjamin.
Bonjour Juan et bonjour à tout le personnel de RFI.
Merci.
Bonjour aux auditeurs de RFI.
Vous êtes à Brazzaville, au Congo. Alors, et vous avez des questions concernant la pandémie de coronavirus.
Oui Juan, j'ai deux questions. Je vais commencer par la première.
Bien sûr.
Alors, je voulais comprendre, Juan, quelle est la motivation de l'Union européenne d'ouvrir ses frontières aux ressortissants à condition qu'ils présentent un certificat et un test négatif de Covid. Alors, comme je voulais comprendre comment est-ce que l'Union européenne compte s'y prendre dans la mesure où il pourrait y avoir de faux certificats.
Ah.
Car il y a des probabilités.
Évidemment, vous avez raison, Benjamin. C'est vrai que l'Europe pourrait de nouveau ouvrir ses frontières aux voyageurs du monde entier, à condition, évidemment, d'être vacciné. Franck, Harry, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes attaché de presse à la représentation en France de la Commission européenne. L'authenticité des preuves de vaccination, est-ce que c'est une question qui préoccupe la Commission européenne ?
Oui, tout à fait. Alors, je voudrais juste prendre une minute pour rappeler de quoi il s'agit, la situation actuelle. Pour l'instant, les frontières extérieures de l'Union européenne sont fermées, sauf pour une liste restreinte de 7 pays dans lesquels la circulation du virus est très faible. Mais pour les ressortissants de tous les autres pays, il faut aujourd'hui un motif essentiel pour entrer dans l'Union européenne. Et sur cette base-là, lundi le 3 mai, la Commission européenne a proposé que les États membres assouplissent ces restrictions, notamment en autorisant l'entrée dans l'Union de toute personne vaccinée, qui n'aurait donc plus besoin d'un motif essentiel. Alors, pour répondre précisément sur la lutte contre la fraude, je dirais en résumé qu'il faudra bien montrer patte blanche, et ça se fera en trois étapes. Dans l'immédiat, les États membres devraient pouvoir accepter des certificats de pays tiers, des certificats de vaccination, mais s'ils ont la capacité de vérifier l'authenticité, la validité et l'intégrité du certificat. Une fois que le certificat vert numérique européen sera en place, donc on espère courant juin, ça se sera d'ici la fin juin en tout cas, un ressortissant de pays tiers pourrait demander ce certificat à un État membre dans lequel il se rend, mais en fournissant toutes les informations nécessaires, y compris une preuve fiable de vaccination.
Ouais. Donc par exemple, prenons le cas concret, alors évidemment tout ça est encore à l'étude, mais le cas concret de Benjamin qui est à Brazzaville, s'il souhaite avoir ce fameux passeport de santé, il se rend où ? À l'ambassade de France, à Brazzaville, à une représentation de l'Union européenne ? Parce que ça va être compliqué tout de même.
Alors je suis, oui, les détails sont pas encore connus, mais probablement il faudra qu'il se rende à l'ambassade de l'État membre dans lequel il souhaite voyager.
D'accord. Et donc, vous parliez de trois critères,
oui,
le troisième.
Simplement. Enfin, il y a les trois étapes. Donc, oui. Avant le passeport, une fois que le certificat vert avant le certificat vert numérique, courant juin, quand le certificat vert numérique européen sera en place. Et puis, une autre garantie qui est envisagée, c'est que la Commission pourrait adopter des décisions d'adéquation si elle est convaincue qu'un pays tiers délivre des certificats conformes aux normes internationales et qui sont interopérables avec le système de l'UE. Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire, mais il y a des discussions qui sont prévues entre les autorités de l'Union européenne et les États tiers pour mettre en place des systèmes d'adéquation qui permettront de faciliter le voyage des ressortissants vaccinés.
Non membres de l'Union européenne. Merci infiniment, Franck Harry, d'avoir été avec nous, de la représentation en France de la Commission européenne. Benjamin, je suis désolé, je sais que vous aviez d'autres questions, mais on est obligé de rendre l'antenne, donc on fera en sorte de vous rappeler très très vite. Reste avec nous tout de suite, le journal.